France Inter.
Bonjour à tous. La crainte d'une escalade militaire au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël, l'agence officielle iranienne IRNA annonce que les forces spéciales maritimes des gardiens de la Révolution ont saisi aujourd'hui un porte-conteneur lié à Israël dans le Golfe. Nous serons à Téhéran dans un instant. Une tragédie en Australie et des scènes effroyables qui dépassent les mots et la compréhension selon le Premier ministre Anthony Albanese. Une attaque au couteau a fait au moins 6 morts et plusieurs blessés dans un centre commercial bondé de Sydney. Dans ce journal également, après Gallimard, Editis, le numéro 2 de l'édition française, opposé à la publicité pour les livres à la télévision, le magasin Géox à Strasbourg, placé sous surveillance policière, sur fond de menaces sur les réseaux sociaux, et les motards manifestent contre le contrôle technique obligatoire. Notre rendez-vous avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin dans un bistrot tirelire.
On prend la petite poussette pour pousser le billet dans la fente. Pour être sûr qu'il soit bien à l'intérieur. Si vous poussez pas votre billet, ça peut tomber par terre. Et en plus, quelqu'un peut passer, peut le prendre.
Après ce journal, secret d'info, Jacques Monin.
Eh bien, après la mise en cause de Philippe Lioret pour son comportement lors du casting, nous poserons la question du positionnement des réalisateurs face aux actrices. Est-on face à un problème systémique ? C'est donc cet angle mort du MeToo, du cinéma, que nous allons explorer.
La météo, un temps estival ce samedi, Camille Esneau.
Oui, jusqu'à 30 degrés attendus par endroit.
Prévision complète à la fin de ce journal.
France Inter.
Un navire lié à Israël saisi par l'Iran dans le Golfe, alors qu'Israël est toujours sous la menace d'une attaque de l'Iran. On y revient dans un instant. Hier soir, le Hezbollah libanais, soutenu par Téhéran, a lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël. L'attaque n'a fait aucun blessé, mais renforce également la crainte d'une attaque iranienne. Les Pays-Bas fermeront leur ambassade à Téhéran par précaution et la compagnie aérienne australienne Qantas annonce qu'elle va désormais éviter l'espace aérien iranien. En France, le Quai d'Orsay appelle les parties prenantes à la retenue. Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères sur France Info.
Le message qui est porté par le ministre à l'ensemble de ses homologues, c'est effectivement un message de retenue et dans le but d'éviter une escalade régionale qui pourrait être catastrophique.
Il y a un dialogue diplomatique direct aujourd'hui entre Paris et Téhéran ?
Oui, tout à fait. Nous avons une ambassade ouverte à Téhéran et le ministre s'est entretenu le 23 janvier dernier avec son homologue iranien lorsqu'il était en déplacement à New York en marge d'une réunion du Conseil de sécurité. Ça a été l'occasion pour le ministre de passer des messages de grande fermeté à son homologue iranien et en appelant au calme et à la discussion pour éviter justement qu'il y ait cette escalade régionale que nous redoutons.
Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères. On part maintenant en Iran. À Téhéran, on retrouve notre correspondant. Bonjour, Siavosh Ghazi.
Bonjour.
Alors l'Iran a menacé de punir Israël après une frappe sur son consulat à Damas en Syrie, frappe qui a fait 16 morts le 1er avril dernier. Et on le disait, les médias officiels iraniens annoncent que Téhéran a saisi un navire lié à Israël ce matin dans le Golfe.
Absolument, selon les médias iraniens, donc c'est un navire marchand qui a été saisi dans le détroit d'Ormuz. Ce sont les forces armées de la marine des gardes de la Révolution qui ont saisi ce navire marchand qui appartiendrait à un milliardaire israélien. Donc cela fait partie, selon certains médias iraniens, de la réponse apportée par Téhéran à l'attaque contre son consulat à Damas qui a fait 16 morts, notamment deux hauts gradés des gardes de la Révolution. Dans le même temps, les médias iraniens affirment que la réponse de Téhéran, la réponse militaire de Téhéran contre le territoire israélien devrait intervenir assez rapidement, de manière imminente. Et on parle d'une frappe avec des missiles de précision et des drones d'attaque contre le sol israélien. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'indication sur le moment où cette attaque sera donnée contre Israël.
Alors, Siavosh Ghazi, riposter militairement, vous nous dites, pour Téhéran, mais en faisant attention à la réponse israélienne ?
Absolument. Ce matin même, un message a été envoyé donc par le ministère de la Culture qui chapeaute les médias étrangers aux journalistes qui sont basés à Téhéran en insistant sur plusieurs points. Tout d'abord, le fait que l'Iran peut répondre légitimement à la frappe contre son consulat puisque ça fait partie, selon Téhéran, de son territoire. Donc c'est le territoire iranien qui a été visé avec la frappe contre le consulat. Ensuite, site, le message affirme que si jamais Israël riposta à son tour contre l'Iran, à ce moment-là, il y aura une réaction encore plus dure de Téhéran contre Israël. Et enfin, si Israël frappait Téhéran après une attaque iranienne, à ce moment-là, il y aura un danger d'embrasement dans la région. Les forces qui sont les alliées de Téhéran dans la région, notamment les milices chiites irakiennes, ont également affirmé que les bases américaines pourraient être visées si jamais les États-Unis se mettaient du côté d'Israël pour attaquer l'Iran.
Et effectivement, à l'instant, Israël prévient que, en cas d'escalade, l'Iran subira les conséquences. Merci Siavosh Ghazi, correspondant à Téhéran de RFI et France Inter. Dans l'actualité également ce samedi, une attaque au couteau meurtrière à Sydney en Australie. Au moins 6 personnes ont été tuées dans un centre commercial et plusieurs autres ont été blessées et transportées à l'hôpital. Un homme, vraisemblablement l'agresseur, a été abattu par la police. Quelques heures après la tragédie, aucune piste n'est écartée. Sur place à Sydney, les précisions de Grégory Pless.
Le centre commercial était plein en ce début de vacances scolaires lorsque l'assaillant, armé d'un couteau et l'air hagard selon plusieurs témoignages, s'en est pris au hasard à ses victimes. L'état de plusieurs personnes envoyées en urgence à l'hôpital reste incertain, parmi lesquelles se trouve un bébé âgé de seulement 9 mois. L'assaillant, lui, a été abattu par une policière, l'une des premières à arriver sur place, alors que celui-ci se dirigeait vers elle, le couteau pointé dans sa direction. Le motif de cette attaque est à ce stade inconnu. La police indique en outre qu'au vu des premiers éléments recueillis, rien n'indique que l'assaillant n'était animé par une idéologie particulière, tout en précisant que l'enquête commence à peine et qu'aucune piste n'est pour l'instant exclue. Il n'y a toutefois plus de danger pour la population, la police ayant confirmé que l'homme abattu avait agi seul. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
En Haïti, un accord a été trouvé pour former un conseil présidentiel de transition. Depuis plus d'un mois, la situation s'est fortement dégradée dans le pays entre violence des gangs et démission du Premier ministre. Bonjour Élise Delève.
Bonjour.
Alors ce conseil très attendu sera chargé de rétablir l'ordre et la stabilité.
Oui, et il a fallu plusieurs semaines de négociations pour parvenir à trouver la bonne formule. Le conseil présidentiel de transition sera constitué de 7 membres représentant les principales forces politiques du pays, ainsi que le secteur privé. Ensemble, ils devront nommer un Premier ministre et un gouvernement inclusif. Pour la communauté des Caraïbes qui a parrainé les discussions, ce conseil est un nouveau départ pour Haïti. Les États-Unis notent un pas positif, même si le pays, qui n'a plus de président et plus de parlement, doit faire face à d'immenses défis. Depuis les attaques coordonnées des gangs fin février, 100 000 personnes ont fui la capitale et sa région pour se mettre à l'abri des violences. Port-au-Prince est majoritairement aux mains de bandes criminelles accusées d'enlèvement, de meurtre et de viol. MSF parle de cette ville comme d'un désastre humanitaire. L'ONU tente d'apporter de l'aide, mais la fermeture des principaux ports et aéroports en mars empêche l'acheminement d'aide. Et le Programme alimentaire mondial estime aujourd'hui que les stocks risquent d'être épuisés d'ici la fin du mois.
Élise Delève, merci. En Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, une manifestation d'ampleur pour et contre l'élargissement du corps électoral. Près de 30 000 personnes, indépendantistes et non-indépendantistes, se sont mobilisées avant les prochaines élections provinciales. Le projet de loi constitutionnelle visant à ouvrir le corps électoral aux personnes résidant sur le territoire depuis au moins 10 ans est en cours d'examen au Parlement et un texte qui a ravivé les tensions entre les partisans de l'indépendance et ses opposants. Le magasin Geox à Strasbourg, placé sous surveillance policière, le parquet a ouvert une enquête à la suite d'une plainte du gérant du magasin de chaussures. Il est la cible de menaces de mort depuis la publication il y a quelques jours d'une vidéo sur les réseaux sociaux devenue virale. Sur les images, on voit le gérant du magasin échanger avec une vendeuse intérimaire, une jeune femme voilée, une tenue pas adéquate selon le patron qui refusait de la faire travailler en raison de ce voile. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour.
Et la boutique est donc désormais placée sous surveillance policière.
Oui. Oui, des voitures de police stationnées devant cette boutique, des vigiles aussi. Le patron menacé de mort, lui, est en arrêt. Tout cela suite donc à cette vidéo publiée par la vendeuse sur TikTok et vue des millions de fois. En voici un extrait.
Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Simplement.
J'ai le voile, faut le dire, faut passer par les mots.
Ah,
exactement.
Mais oui, mais parce que c'est, on est en France, madame. C'est dans la loi.
Sur le contrat, c'est pas écrit que
oui,
je dois pas
laïque.
Mettre le voile.
Moi, j'ai une
si
collègue qui a une croix autour du cou, elle ne la montre pas non plus.
La jeune femme voilée a fini par quitter le magasin. À noter qu'elle aussi est victime aujourd'hui de menaces et d'insultes sur les réseaux sociaux, des messages publiés en partie par la fachosphère.
Mais alors que dit le droit, Ajra ?
Alors, la loi française n'interdit pas le port du voile dans une entreprise privée. Néanmoins, ces entreprises sont, depuis 2016, libres d'imposer une clause de neutralité dans leur règlement intérieur. Ça concerne notamment les signes religieux. Mais les conditions sont très strictes, rappelle Olivier Philippot, avocat spécialiste du droit du travail. Écoutez, les joints par France Bleu Alsace.
Si vous voulez, la première condition, c'est une condition d'ordre général, c'est que la limitation de la manifestation des convictions religieuses des salariés doit être absolument nécessaire pour l'entreprise. C'est une clause qui doit viser absolument toute manifestation de convictions religieuses, mais également politiques, philosophiques, spirituelles. Cette clause ne pourra s'appliquer qu'aux salariés qui sont en contact avec la clientèle.
Et dans un communiqué, l'entreprise Geox assure que son règlement intérieur prévoit effectivement cette clause de neutralité. Le groupe apporte son soutien aux patrons et aux équipes de Strasbourg.
Ajra Mohamed, merci. La publicité pour les livres à la télévision. France Inter vous révélait ce matin que l'éditeur Antoine Gallimard réclame l'abrogation du décret paru le 6 avril au Journal officiel, décret qui autorise la publicité pour les livres pour une période de 2 ans sur le petit écran. Et ce matin, dans On n'arrête pas l'écho, Denis Oliven, président du groupe Editis, présenté comme le numéro 2 de l'édition française avec notamment les maisons Plon et Robert Laffont, eh bien Denis Oliven ne dit pas autre chose.
Nous, on fait partie des groupes qui avons beaucoup de best-sellers. Et pourtant, je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec Gallimard. Je pense que, et ça c'est mon expérience des médias, je pense que ça va profiter, en effet, ça va continuer d'accélérer la concentration du marché sur ses plus gros vendeurs au détriment de la diversité. Parce que seuls les best-sellers peuvent supporter les coûts d'une publicité à la télévision. Donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. On ferait mieux de mettre de l'argent dans des émissions de télévision qui promeuvent la lecture et la lecture pour le plus grand nombre plutôt que de faire ça.
Denis Oliven avec Alexandra Ben Saïd. Le contrôle technique obligatoire pour les motos à partir de lundi. Des manifestations sont prévues aujourd'hui partout en France. Entre 1000 et 2000 motards sont notamment attendus aujourd'hui sur les routes de Belfort. Et malgré un long bras de fer et de nombreuses mobilisations, les motards ont perdu et en rage. Mais la Fédération des motards en colère du territoire de Belfort n'a pas dit son dernier mot. Marcel Jardot, coordinateur de la Fédération, avec Jules Hausse de France Bleu Belfort Montbéliard.
Pour la moto, nous, on n'ira pas. De toute manière, on a jusqu'à la fin de l'année, on va pas se presser. Et puis, de toute manière, on va boycotter aussi. Ma foi, on appelle à la désobéissance civile. On l'a déjà fait en 80 pour la vignette. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas là. Hein. Je sais que le contexte n'est plus le même, mais moi, j'y étais. On n'a jamais acheté la vignette, parce qu'ils voulaient nous mettre la vignette, et pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils ont annulé. Mais on n'a jamais perdant. On a encore des recours au niveau du Conseil d'État qui sont encore en action. Nous, ce qu'on va appeler, c'est le boycott des contrôles techniques qui feront la moto pour nos voitures aussi, parce que un motard, il a aussi des voitures. Et donc, on n'ira que chez les gens qui ne font pas la moto pour nos voitures. De toute manière, on ne lâchera rien. Ça peut aller jusqu'à des blocages de centre, on verra bien. Hein. On va être un peu plus, au fur et à mesure, un peu plus méchant, certainement, mais voilà.
Marcel Jardot, coordinateur des motards en colère dans le territoire de Belfort. À Rouen, la micro-crèche du groupe Les Petits Chaperons Rouges ferme pour 3 mois. Décision de la préfecture de la Seine-Maritime en raison de plusieurs problèmes. Manque de personnel, manque de nourriture, des réfrigérateurs trop chauds, mais aussi la blessure d'un enfant non signalé aux parents. Des manquements constatés par les services de l'État et le département qui ont conclu que la sécurité des enfants n'était pas assurée. Clément Vivès, sous-préfet et directeur du cabinet du préfet de la région Normandie, au micro d'Adèle Marché de France Bleu Normandie.
De locaux qui sont en attente de travaux, d'endroits qui ont besoin d'être remis aux normes, d'un nombre de couchages trop important au vu de la superficie d'une pièce, de températures qui sont trop élevées, de branchements électriques qui peuvent être dangereux. Voilà un certain nombre de points qui imposent la prise de cette mesure d'urgence, la fermeture de cette micro-crèche. Il s'agit aujourd'hui d'une décision administrative. Je crois savoir que des faits ont pu faire l'objet de plaintes qui relèvent d'une procédure pénale. Si maltraitance ou éventuellement dommage il y a pu y avoir, ça relève de l'autorité judiciaire. Là aujourd'hui, c'est vraiment une décision afin de s'assurer que le cadre d'accueil des mineurs est en sécurité. Ça n'est pas le cas. La décision est de fermer et d'orienter, d'aider les familles avec l'aide de la CAF à faire garder leurs enfants dans d'autres structures de la commune de Rouen.
Clément Vivès, sous-préfet de la région Normandie. C'est un week-end estival qui nous attend. Météo France annonce par exemple jusqu'à 30 degrés ce samedi en Corrèze, un record pour un 13 avril, qui plus est en période de vacances scolaires. Alors le soleil, c'est plutôt bon pour le tourisme, même si dans les quelques campings ouverts, ce n'est pas encore la ruée, loin de là. Reportage Philippe Graziani de France Bleu Limousin.
Vous êtes là combien de temps ?
On est là jusqu'on repart lundi.
D'accord.
Les arrivées comme celle-ci se comptent presque sur les doigts d'une main ces jours-ci, concède le gérant du camping du lac de Bournazel à Seillac, Thierry Fresley.
Les Parisiens, ça fait une semaine qu'ils sont en vacances. Ouais, je pense qu'eux, ils sont partis en bord de mer. Hein. Ou peut-être qu'ils soient en Gironde, des choses comme ça, ou à Royan, peut-être. Après, on peut avoir les campings qui arrivent parce qu'eux, ils sont itinérants, donc c'est beaucoup plus facile. Ils peuvent rester une nuit ou deux. Il fait beau, ça peut ramener un peu du monde.
De fait, il faut marcher un peu dans les allées du camping pour trouver des touristes comme cette famille venue de l'Essonne. Le beau temps y est pour quelque chose, explique la maman Sandrine.
Mon mari s'était déplacé pour des raisons professionnelles, donc nous on s'est dit, on en profite et puis on vient-y pendant les vacances scolaires des enfants. Il fait beau. Moi, j'aime quand il n'y a pas trop de monde, donc là, c'est vraiment la tranquillité. On peut écouter la nature, on fait des belles balades. C'est top.
Pour trouver des professionnels du tourisme qui profitent vraiment de cet été avant l'heure, il faut aller dans un restaurant. L'Elo, au bord du lac de Bournazel, affiche complet dès qu'il fait beau, indique la gérante Elodie Malater.
Il y a un petit peu de touristes, il y a un petit peu de passage. Le week-end de Pâques a été beau et on a très bien travaillé. Et ce week-end, le soleil est enfin là, donc les terrasses sont ouvertes et normalement, on attend beaucoup de monde.
Hélas, cet été en avril ne va pas durer. Météo France annonce une forte chute des températures dès ce lundi.
Du sport sous le soleil et un après-midi rugby avec les quarts de finale de la Coupe des Champions. L'Union Bordeaux-Bègles reçoit à 16h les Anglais des Harlequins et puis en challenge, La Rochelle affronte aussi en Coupe des Champions l'Irlande, les Irlandais du Leinster, match à 18h30. Et puis en challenge, on y vient, quart de finale également, Clermont reçoit les Irlandais de l'Ulster, coup d'envoi à 13h30. Enfin, en cyclisme, la légende belge du cyclisme, Eddy Merckx, 78 ans, a été opéré d'urgence d'une occlusion intestinale à la fin du mois de mars. La presse belge indique que ses jours ne sont pas en danger. On part dans l'Est de la France pour les bonnes ondes de Sandrine Houdin à la rencontre de Français qui se battent pour la survie d'une très vieille tradition ouvrière typique de la région, les clubs épargne de bistrot, appelés aussi les bistrots tirelires. Le principe est de placer ses économies non pas à la banque, mais dans des casiers individuels accrochés au mur du café du village. Pour comprendre l'intérêt, on pousse la porte du bar PMU, le chemin de fer à Algrange, en Moselle.
Casier numéro 50 pour Michel qui sort de sa poche un billet de 20 euros, plus qu'à le plier en quatre et attraper la poussette, une espèce de mini spatule suspendue à une chaînette.
On prend la petite poussette pour pousser le billet dans la fente, pour être sûr qu'il soit bien à l'intérieur. Si vous poussez pas votre billet, ça peut tomber par terre. Et en plus, quelqu'un peut passer, peut le prendre. Voilà.
Ça fait combien de temps que vous faites ça?
Ça fait 30 ans. Avant, j'avais un autre café qui a fermé. J'étais aussi dans le club du café d'avant.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ces clubs?
Je vais plus souvent au café qu'à la banque. Je bois mon café, je lis mon journal le matin, je mets une pièce là-dedans. Là, aujourd'hui, j'ai bien habillé, mais demain, je mets une pièce de 2 euros ou 1 euro. Puis, à la fin de l'année, on regardera ce qu'il y a dans la canette. Hein.
Ça vous fait marrer?
C'est rigolo. Hein.
Léo, autre membre du club, occupé à jouer aux courses.
Oui, c'est du bocage, attention à son extérieur.
Là. Je laisse tout mon argent ici, là.
Mais pourquoi choisir ce mode d'épargne? Pourquoi pas la banque?
La banque? C'est des voleurs.
Le chemin de fer, c'est votre caisse d'épargne.
Mais oui.
Mais il n'y a pas d'intérêt.
On s'en fout. Moi, l'intérêt, c'est fin d'année, je récupère tout mon argent.
Et pourquoi vous ne faites pas ça avec une tirelire chez vous?
Ah non, ça ne marche pas, tirelire, parce que je la casse. Et là, je n'ai pas le choix, j'attends fin d'année. J'ai 1800, 2000 euros.
Ah oui?
Bah oui.
Votre numéro de case?
Secret défense. Vous buvez un verre?
Je veux bien un petit café.
S'il vous plaît.
Vous faites quoi dans la vie?
Bâtiment, madame.
Je vais vous faire le café.
Merci pour le café, monsieur.
Mais je vous en prie, vous êtes très sympa.
Du sucre?
Sans sucre.
Hop. Voilà.
Coco, la patronne, très attachée à ses petites cases au fond de son café.
J'en ai trois.
Trois?
Pour mes enfants et une pour moi, quoi. Sinon, après, ça se perd et puis c'est pas le but, quoi.
Les petits bistrots de village comme ça en ont besoin.
Bah oui, c'est un plus. Ils viennent boire leur apéro le midi et ils viennent mettre dans leur case.
Au comptoir, deux anciens nostalgiques.
On commence à être des vieux cons, mais bon, c'est quelque chose de, ici, dans le secteur, qu'il faut jamais arrêter.
C'est couleur locale, ça ne doit pas s'arrêter.
Moi, mes grands-parents avaient une case, le peu qu'ils pouvaient, ils épargnaient. Et puis, ça fait vivre le café, vivre le village.
D'ailleurs, vous devez en faire partie, vous. Francesco, chante-lui une petite chansonnette à la petite, là.
Pop.
Françoise Benvenuti, la présidente du club originaire de région parisienne, a découvert la coutume.
Je me suis dit, c'est super.
Jamais vous n'en aviez entendu parler.
Ah non, moi non. J'ai connu ça en venant au bar, quoi, au café. Moi, je dirais que c'est du plaisir. Puis les gens qui viennent mettre les sous, ils sont tous sympas.
Vous avez une petite case, vous?
Oui, moi j'en ai. Ma fille en a, ma belle-sœur en a, son fils en a et ses deux petits-enfants, ils en ont.
Votre numéro?
9. Je partage avec mon mari, donc il a la moitié de ce que je mets.
Voilà.
Ma c'est tout, dovorai, credera.
Voilà, les bistrots tirelires avec Sandrine Houdin. Rendez-vous demain dans un autre bistrot tirelire pour assister à la traditionnelle levée de fonds. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Bonjour Camille Esnault.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Rien ne viendra gâcher l'impression de beau temps cet après-midi.
Eh oui, le soleil brillera pour tout le monde, malgré des nuages bas-côtiers à surveiller de la Charente-Maritime au Finistère et dans le couloir de la Manche. Certains vont gagner la Haute-Normandie et les Hauts-de-France. Sur le Nord-Pas-de-Calais, le vent devient sensible avec des rafales jusqu'à 50 km/h.
Jusqu'à 30 degrés par endroit cet après-midi.
Oui, c'est 8 à 12 degrés au-dessus des normales d'avril. Les 30 degrés sont attendus du côté de Carcassonne, Pau ou encore Agen. Il fera 28 degrés à Limoges, 27 à Lyon, 26 à Paris, 25 à Nancy, 22 à Saint-Brieuc et un petit 15 à Boulogne-sur-Mer. Il faudra en profiter hein, car dès demain, les nuages vont envahir le pays par le nord-ouest avec une baisse des températures qui s'amorce, sauf sur la partie est et le sud du pays où vous pourrez encore un peu profiter de l'été.
La météo de Camille Esnault, merci.